Laudetur Jesus Christus.
L'espoir renaît d'une trêve dans la bande de Gaza, que ce soit du côté du Hamas ou des autorités israéliennes. Les derniers signaux envoyés sont positifs. Une trêve plus que jamais nécessaire dans l'enclave palestinienne, alors que les conditions sanitaires sont catastrophiques, dans le nord en particulier. Nous retrouvons notre correspondante à Jérusalem au début de ce journal. La guerre civile au Soudan, oubliée de la communauté internationale, déplore le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU. Le conflit a un impact lourd sur les enfants en particulier, c'est ce que nous dira la Caritas Royaume-Uni qui opère dans le pays. À la une de ce journal également, les opérations de secours qui se poursuivent sur l'archipel de Mayotte, 3 jours après le passage du cyclone Chido. Et puis la République démocratique du Congo porte plainte contre Apple. Des filiales du géant de la tech sont accusées d'utiliser dans ses produits des minerais exploités illégalement en RDC.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir. Des négociations sérieuses et positives se déroulent en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Déclaration du Hamas mardi après-midi, alors que les discussions se sont accélérées ces dernières heures sous l'égide du Qatar et de l'Égypte. Les choses semblent enfin bouger après des mois d'inertie. Selon le ministre de la Défense israélien Israël Katz, les négociateurs israéliens n'ont jamais été aussi proches d'un accord en vue de la libération des otages. Une trêve dont Gaza a bien besoin. Sur le terrain, les factions palestiniennes continuent d'attaquer, de tendre des pièges aux troupes israéliennes dans l'ensemble de l'enclave, tuant 2 soldats aujourd'hui en blessant 5 autres dans le sud à la frontière avec l'Égypte. De son côté, l'armée israélienne poursuit sa guerre sans répit et meurtrière pour les populations civiles. Le reportage depuis Jérusalem de Valérie Ferron.
Enfants et adultes de la bande de Gaza continuent d'être soumis aux bombardements israéliens, y compris dans les zones déclarées humanitaires par l'armée israélienne, qui maintient parallèlement son blocus du territoire, empêchant ainsi l'entrée de l'aide humanitaire et laissant plus de 2 millions de personnes souffrir de la faim, de la soif et du froid. L'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, alerte notamment sur le cas de 8500 nourrissons en danger de mort par manque de lait maternisé. Le directeur de l'autorité palestinienne des eaux met pour sa part en garde contre le manque d'eau potable, en particulier dans la région nord, toujours coupée du reste du territoire.
Depuis plus de 70 jours, les habitants de la région nord de la bande de Gaza n'ont aucun accès à de l'eau potable, ce qui signifie qu'ils sont promis à une mort certaine.
Israël continue également sa destruction des hôpitaux, principalement visé actuellement celui de Kamal el-Adwan dans la région nord, cible de bombardements et de tirs de drones militaires depuis des semaines, qui font régulièrement des blessés parmi le personnel médical et les dizaines de patients laissés sans vivre et totalement paniqués. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1 milliard d'euros d'aide de l'Union européenne pour financer l'aide aux réfugiés en Turquie, telle est l'annonce faite ce mardi par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite à Ankara où elle a rencontré Recep Tayyip Erdogan. Une aide qui devrait permettre la gestion des migrations et des frontières, y compris un retour volontaire des réfugiés syriens, précisait l'Allemande. Selon les prévisions de l'ONU, près d'1 million de réfugiés syriens pourraient revenir dans leur pays entre les mois de janvier et de juin 2025. Les Nations Unies qui déconseillent cependant un retour massif des réfugiés pour l'instant, la Syrie n'étant pas en mesure d'assurer leur accueil. La Syrie, où de nombreux diplomates occidentaux ont fait le voyage à Damas ces dernières heures pour y rencontrer les nouvelles autorités dominées par le groupe islamiste HTC. Un représentant de l'Union européenne était hier dans la capitale syrienne. Une délégation de l'ONU aussi. Ce mardi, c'est un émissaire de Grande-Bretagne, un autre d'Allemagne qui sont venus s'entretenir avec les nouveaux maîtres du pays. L'archevêque maronite d'Alep, Mgr Joseph Tobji, exhorte lui les chrétiens du pays à s'impliquer dans cette nouvelle phase pour la Syrie. C'est maintenant à nous, chrétiens syriens, de jouer notre rôle dans la vie politique et sociale. Nous ne voulons pas être considérés comme des seconds rôles, dit-il dans un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site vaticannews.va. La gravité de la crise au Soudan, ravagée par plus de 18 mois de guerre civile, n'est pas comprise par la communauté internationale. C'est ce qu'a déploré le coordinateur régional du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Les efforts diplomatiques ne sont pas à la hauteur des besoins, a-t-il déploré depuis le siège du HCR à Genève. Seulement 30% des dons au Soudan ont été financés. Parmi les plus affectés par ce conflit sans fin, les enfants soudanais, c'est ce que déplore Teile Sadia, responsable du CAFOD, c'est l'agence d'aide catholique officielle pour l'Angleterre et le Pays de Galles au Soudan. On l'écoute.
Les enfants sont les grands perdants de cette guerre. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur avenir, ils ne vont plus à l'école. Ça va prendre beaucoup de temps avant de récupérer tout cela. Ils sont aussi traumatisés par la guerre, surtout ceux qui vivent en dehors de la région du Darfour et qui sont moins habitués aux conflits armés de cette ampleur. Ce que vivent les enfants en ce moment est vraiment très difficile. En raison de tout ce qui se passe en ce moment, je ne peux ni le confirmer ni le démentir car je ne suis pas directement sur le terrain, mais nous avons reçu des informations comme quoi les deux camps recrutent des soldats parmi les enfants, les adolescents, la jeunesse. Au vu de la gravité du contexte, on ne peut rien exclure dans ce genre de situation.
Telle est Sadia, responsable du CAFOD, l'agence d'aide catholique officielle pour l'Angleterre et le Pays de Galles au Soudan. Propos recueillis par notre consoeur du programme anglophone de Radio Vatican, Francesca Merlo. Le couvre-feu est entré en vigueur ce soir sur l'archipel de Mayotte dans l'océan Indien pour éviter notamment les pillages. Le département français de l'océan Indien découvre chaque jour l'étendue de la dévastation après le passage du cyclone Chido. Mayotte qui panse toujours ses plaies, manque d'eau, de nourriture ou d'électricité. Le bilan humain est encore très incertain. Il pourrait s'élever à des centaines, voire des milliers de morts. Marie-Christine Bonzon.
Interpellé par les députés lors de sa première séance de questions à l'Assemblée, le nouveau Premier ministre, qui n'a pas encore formé son gouvernement, a estimé cet après-midi, et je cite, que la catastrophe à Mayotte réclame un effort national. Le bilan provisoire communiqué par François Bayrou fait état d'une vingtaine de morts, de 200 blessés graves et de 1500 autres blessés qui ont besoin de soins urgents. Pour le court terme, le Premier ministre a annoncé que 800 personnels vont arriver à Mayotte pour renforcer les 450 déjà déployés. Pour le plus long terme, il indique qu'un appel à projet sera lancé pour la reconstruction de l'archipel. Dans les deux cas, il souligne que la priorité est l'approvisionnement en eau potable et en nourriture. De son côté, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur du gouvernement renversé par l'Assemblée et désormais intérimaire, a indiqué, après une visite à Mayotte, qu'il existe aussi un risque d'épidémie. Un pont aérien et maritime entre l'île de la Réunion et Mayotte achemine les vivres, les matériels et les équipes nécessaires au secours et à la prise en charge des blessés, l'hôpital de Mayotte étant gravement endommagé par le cyclone. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
Mayotte, où le comité international de la Croix-Rouge dit avoir perdu trace de 200 de ses membres à Mayotte. Emmanuel Macron, lui, devrait se rendre sur l'archipel dans les prochaines heures, a-t-il confié ce mardi. Le président français qui a annoncé sa volonté de décréter un national après le passage du cyclone Chido, un cyclone qui a touché également le Mozambique avec au moins 34 victimes. À 6000 km de l'archipel de l'océan Indien à Paris, les tractations, elles, se poursuivent pour le nouveau Premier ministre François Bayrou afin de former un gouvernement. Dans une première séance de questions ce mardi à l'Assemblée, il a promis devant les députés d'offrir, je cite, un traitement équitable à tous les groupes politiques. En Ukraine, l'armée russe a revendiqué aujourd'hui la prise d'une nouvelle localité dans l'est du pays. Hier, devant les hauts responsables de la défense, Vladimir Poutine s'était félicité de voir ses troupes progresser et avait donné le chiffre de 189 localités conquises en 2024. Je vous en parlais dans les titres, un géant d'Afrique centrale contre un géant de la tech. L'État congolais a déposé plainte en France et en Belgique contre les filiales du groupe Apple, accusé d'utiliser dans ses produits des minerais exploités illégalement en République démocratique du Congo. Les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Pascal Moulégois.
Mandatés par Kinshasa, les avocats Robert Amsterdam, William Bourdon, Vincent Bergraf et Christophe Marchand ont déposé une plainte en France et Belgique visant Apple, l'accusant des recels et des pratiques commerciales trompeuses. Selon eux, la société américaine à la pomme blanche aurait acheté des minerais extraits illégalement de l'Est de la RDC via les Rwandas voisins, où ces minerais seraient blanchis et intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Apple est accusé d'avoir affirmé à ses consommateurs que ses chaînes d'approvisionnement étaient propres alors qu'elle aurait facilité des activités criminelles telles que le financement des milices, des groupes terroristes, l'exploitation d'enfants dans des conditions de travail forcées ainsi que la dévastation environnementale. Les avocats s'appuient sur des rapports des Nations Unies, du département d'État américain et d'ONG comme Global Witness pour soutenir leurs accusations. Ils ont également sollicité Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, afin d'ouvrir un dialogue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans ces trafics. Mise en demeure en avril dernier, Apple avait nié toute légitimité à ces accusations, tandis que Kigali avait qualifié les accusations congolaises des rhétoriques sans fondement. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI pour Radio Vatican.
Voilà, et c'est en République démocratique de Congo, du Congo, que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Je vous souhaite d'ici là une excellente soirée.